Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Nine-Nar-Tree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Éthique à Nicomaque est un traité de philosophie pratique attribué à Aristote, composé au IVe siècle avant notre ère et transmis sous la forme de 10 livres. Il ne propose pas un catalogue de règles universelles applicables mécaniquement. Il examine plutôt la question directrice de toute conduite humaine, quelle vie mérite réellement le nom de vie bonne. Aristote désigne le bonheur, ou eudaimonia, comme la fin suprême recherchée pour elle-même. Mais ce bonheur ne se confond ni avec une émotion passagère, ni avec la prospérité matérielle, ni avec la réputation. Il consiste dans une activité durable de la personne, guidée par la raison et accomplie conformément aux vertus. Le traité analyse donc la formation des dispositions morales, le rôle du choix volontaire, la délibération, la justice, les relations amicales, le plaisir et la contemplation. Son ambition est à la fois descriptive et normative, comprendre comment les êtres humains agissent. Puis déterminer comment ils peuvent développer un jugement et un caractère capable de bien agir dans la cité. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, le bonheur comme activité accomplie de la vie humaine, Aristote commence par constater que toute action vise un bien, on soigne pour la santé, on produit pour un résultat. On choisit aussi certains actes pour des fins plus vastes. Cette hiérarchie des fins impose de chercher une fin ultime, désirable pour elle-même et non comme simple moyen. Le bonheur remplit cette fonction de souverain bien. Il ne faut toutefois pas le comprendre comme un état subjectif de satisfaction. Aristote écarte les identifications rapides avec le plaisir, les honneurs ou la richesse. Le plaisir peut accompagner une activité bonne, les honneurs dépendent largement du regard des autres et la richesse demeure instrumentale. La définition positive repose sur la fonction proprement humaine, vivre selon la raison. Le bonheur est ainsi une activité de la partie rationnelle de la personne, conforme à une vertu accomplie et déployée sur une vie entière. Cette durée est décisive, car un acte isolé ne constitue pas un caractère ni une existence réussie. Des biens extérieurs restent nécessaires dans une certaine mesure, puisque la vulnérabilité matérielle ou relationnelle limite les possibilités de bien agir. Mais ils ne constituent pas le principe du bonheur. Cette conception lie donc évaluation de la vie, exercice des capacités humaines et qualité stable des actes. Deuxièmement, la vertu morale se forme par les habitudes et vise le juste milieu. Les vertus morales ne sont pas données naturellement comme des réflexes achevés. Aristote soutient que nous possédons la capacité de les acquérir, mais que leur formation dépend de la répétition des actes. On devient juste en accomplissant des actes justes, tempérant en apprenant à régler ses désirs, courageux en affrontant de façon appropriée les situations redoutables. Cette thèse fait du caractère une réalité façonnée par les pratiques, par la formation et par les institutions de la cité. La vertu est décrite comme un juste milieu relatif à nous, déterminé par la raison et par le jugement de la personne prudente. Il ne désigne donc jamais une médiocrité ni une moyenne chiffrée. Face au danger, le courage se situe entre la lâcheté et la témérité. Dans les plaisirs corporels, la tempérance évite à la fois le défaut de sensibilité et la démesure. La juste mesure dépend de la circonstance, de la personne, du moment et de la fin poursuivie. Certaines actions, notamment celles qui sont mauvaises par leur nature, ne reçoivent pas de juste milieu. Cette analyse évite deux simplifications, croire que la morale est une liste fixe de prescriptions ou croire que toute préférence personnelle se vaut. Bien agir exige une disposition stable à ressentir, choisir et agir de manière appropriée. Troisièmement, le choix délibéré et la prudence transforment la vertu en action juste. Une action vertueuse ne se réduit pas à un comportement extérieurement correct. Pour Aristote, elle suppose que la personne sache ce qu'elle fait, choisisse elle-même son acte et agisse à partir d'une disposition ferme. Cette place accordée au choix distingue les gestes accidentels, les actions contraintes et les actes accomplis sous le coup d'une ignorance déterminante. La délibération porte sur les moyens accessibles, non sur les fins impossibles ou nécessaires. Une personne raisonnable examine ce qui dépend d'elle, anticipe les conséquences plausibles et sélectionne les moyens les mieux ajustés à une fin juste. La prudence, ou phronesis, est la vertu intellectuelle qui rend ce jugement possible dans le domaine variable de l'action. Elle ne fournit pas une technique neutre permettant d'atteindre n'importe quel objectif. Elle unit compréhension des circonstances et orientation vers le bien humain. C'est pourquoi la ruse ou le calcul efficace ne suffisent pas à être prudent. Inversement, une bonne intention sans discernement pratique peut manquer son objet. Aristote établit une relation étroite entre prudence et vertu morale. La vertu donne une juste orientation au but, tandis que la prudence détermine les moyens appropriés. Cette articulation rend compte de la complexité des décisions réelles, où aucune formule abstraite ne dispense de juger avec attention. Quatrièmement, la justice relie l'excellence individuelle à l'ordre de la cité. Le livre consacré à la justice occupe une place particulière, car Aristote y fait passer l'analyse de la maîtrise personnelle au rapport entre citoyens. La justice, au sens général, désigne la disposition à respecter la loi et à exercer les vertus dans la relation avec autrui. Elle apparaît ainsi comme une vertu complète, puisque son exercice vise un bien partagé. Aristote distingue cette justice générale de la justice particulière, centrée sur l'égalité dans les échanges et les répartitions. La justice distributive règle la distribution des honneurs, des charges ou des ressources selon une proportion. Elle ne traite pas nécessairement tous les individus de façon identique, mais cherche une égalité adaptée aux mérites ou aux critères retenus par la communauté. La justice corrective intervient dans les transactions et les torts, afin de rétablir une égalité lorsque l'une des parties a subi une perte ou lorsqu'une autre a obtenu un avantage indu. Ces distinctions montrent que le juste ne se confond ni avec une générosité spontanée ni avec une égalité uniforme. Il réclame une analyse de la relation concernée et de la mesure pertinente. Le traité introduit aussi l'équité, qui corrige la rigidité possible de la loi générale quand un cas singulier échappe à sa lettre. L'éthique aristotélicienne demeure ainsi inséparable d'une réflexion politique sur les conditions collectives du bien-vivre. En dernier lieu, amitié, plaisir et contemplation dans l'achèvement de la vie bonne. Dans les derniers livres, Aristote refuse de traiter le bonheur comme une réussite solitaire. L'amitié est nécessaire à une vie accomplie, notamment parce que les êtres humains vivent ensemble, partagent des activités et ont besoin de personnes envers lesquelles exercer leurs vertus. Il distingue les amitiés fondées sur l'utilité, celles fondées sur le plaisir et l'amitié fondée sur la vertu. Les deux premières peuvent être réelles, mais elles durent tant que subsiste le bénéfice attendu. L'amitié parfaite unit des personnes qui apprécient le caractère de l'autre et veulent réciproquement son bien pour lui-même. Le plaisir reçoit également une analyse nuancée. Aristote ne le condamne pas comme un ennemi de la vertu, un plaisir approprié peut achever une activité bien menée. Il critique plutôt les plaisirs qui détournent du jugement ou deviennent une fin exclusive. Enfin, le traité donne une place supérieure à la contemplation, activité de l'intellect tournée vers la connaissance. Elle est présentée comme la forme la plus continue, la plus autonome et la plus conforme à ce qu'il y a de plus élevé dans l'être humain. Cette primauté ne supprime pas les exigences de la vie morale et civique. Elle dessine plutôt une hiérarchie, une existence humaine accomplie requiert des vertus pratiques, tandis que la contemplation en exprime, pour Aristote, la plus haute possibilité. En conclusion, Éthique à Nicomaque convient aux lecteurs de philosophie ancienne, mais aussi à toute personne qui cherche une conception exigeante de la conduite humaine sans réduire la morale à des interdictions. Le texte sera particulièrement utile aux étudiants en éthique, en sciences politiques, en droit ou en psychologie morale, car il fournit des distinctions qui demeurent actifs fins et moyens, actes volontaires et actes contraints, égalité et proportion, plaisir et accomplissement, habitude et choix réfléchis. Sa lecture demande de la lenteur. Aristote raisonne par distinctions successives, examine des objections et ne propose pas toujours des réponses immédiatement transposables aux sociétés contemporaines. Certaines prémices historiques, notamment sur la cité et les rapports sociaux, doivent donc être situées et discutées. Son intérêt durable réside moins dans un code prêt à appliquer que dans une méthode de jugement. Face aux situations concrètes, il invite à considérer les fins poursuivies, la qualité du caractère, les circonstances et les effets sur la vie commune. Par rapport aux traités moraux fondés principalement sur le devoir, la loi ou le calcul des conséquences, cette œuvre se distingue par son éthique des vertus. Elle demande non seulement quelle action est correcte, mais quel type de personne devient celui qui agit. Elle articule développement personnel, amitié, justice et politique dans une même enquête sur le bien-vivre. Cette ampleur explique sa place centrale dans l'histoire de la pensée éthique occidentale. Si vous souhaitez soutenir Aristote, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.